Tu t'attendais à ce que Grand Cyr soit un cadre, putain. Merde,
c'est
toi.
Pas cadre, c'est que tu le vois pas.
Mais non, mais les mecs. Putain, mais les gars, ils jouent dans des clubs de quartier. Et le mec, il arrive à Monaco, tu t'attends à ce que ce soit une vedette. Mais il y a qu'en France qu'on croit ce genre de conneries.
Ah. C'est Pierre Ducrot, il m'énerve des fois, Pierre. T'as vu ce que ça provoque un peu les.
Ouais, ouais, mais en plus, t'as pas des mots, des gros mots, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est pas bien, ça devrait pas faire jingle, ça. Voilà.
Alors,
hier soir, je voulais. C'était suite à, je trouve, depuis une semaine, voire deux, des réactions aussi bien dans les propos, enfin, des réactions d'entraîneurs, des réactions de joueurs, et donc des matchs et des réactions d'équipes. Qui évidemment me conduisent à l'un de mes thèmes chers sur la mentalité qu'on a en Ligue 1 et surtout les paradoxes qui font que finalement il arrive parfois que pour analyser ce qui se passe dans notre football, et je suis sûr qu'à l'arrivée vous allez être d'accord avec moi, notamment toi Jérôme, on peut mettre de côté de temps en temps, je vais le faire, l'incompétence de nos entraîneurs, le jeu, on va pas faire de débat là-dessus. Et encore moins sur tous ceux qui nous sortent, c'est à cause de l'oseille et tout ça. Je veux dire, bon, nos adversaires en Coupe d'Europe nous montrent encore une fois cette année que cet argument ne tient pas et renforce même plutôt le paradoxe dont je veux parler, puisque si on prend par exemple, et je vais commencer par Lyon, mais en fait je pourrais n'épargner aucun club, hein, je prends vraiment à dessein nos clubs les plus importants, évidemment. Mais par exemple Lyon qui fait deux bons matchs contre City et qui fait des mauvais matchs contre des adversaires inférieurs. Qui, en Ligue 1, fait du bout à bout, ou du travail à mi-temps. Bon sur une mi-temps, enfin, ou pas bon sur une mi-temps, on est mené 2-0, on revient à 2-2. Ou bon sur une première période, et pas bon sur la deuxième. Ce qui provoque toujours les mêmes propos de Genesio. Alors, ça pourrait dans un second temps, mais ça va pas être l'objet du soir. Est-ce que c'est à cause de l'entraîneur qui s'est pas managé pour faire en sorte que les mecs soient performants tout le temps? C'est certainement la réponse, mais je vais pas donner la réponse, parce que je l'ai fait mille fois. Mais, sur ce bout à bout. Puis alors, l'exemple complètement fou, c'est celui de Rennes. Avec la Mouchy, bon, très irrégulier. Et là, ils se barrent, l'autre arrive, ils font un super match à Lyon, profitant du fameux bout à bout de Lyon. Ils vont gagner là-bas. Et il dit, ouais, on a maîtrisé une grande partie du match, machin, comme si déjà lui avait eu un impact. Le mec, il est arrivé depuis 48 heures, il a déjà tout changé. Dis, non, voilà. Si on, et si on parle de déclic psychologique, qui est souvent l'expression dans ces cas-là, bah, si, déclic psychologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est dans la tête. Mm. Et en fait, moi, je pense que ça n'est que ça. Que tout est là, en fait. Prends Bordeaux. Bordeaux, depuis le début de la saison, ils ont fait quoi? Nul, bien, moyen, renul, et en ce moment, bon. Là, ils se font sur une super série. Et bon, face au Paris Saint-Germain, avec, puisque je reviens à tous ces propos là, des petites collections depuis 10 jours de propos entendus, le joueur, je ne sais plus lequel, qui dit ouais c'est bien, il y avait du monde au stade et tout, ça nous a motivés. Ah bon? Bah donc en fait tu peux pas être motivé tout le temps. Donc ton travail, ça n'est pas d'être régulier, ça n'est pas d'être dans l'exigence, dans le fait de pouvoir répéter les bonnes performances. Visiblement c'est pas ça. On a eu Jean-Louis Gasset aussi. J'ai fait la gueule aux joueurs. En gros c'est une autre façon de les engueuler. Bim, réaction, il colle 3-0 à Nantes. Voilà. Donc en fait, c'est, on se bouge le cul dans la réaction. Mais on se bouge pas le cul a priori, parce que c'est notre taf de le faire. Et là, je rappelais dans le papier que j'ai écrit aujourd'hui sur le
site. Déclaration à contre-courant de notre ami Thierry Loret, pas après le match d'hier, mais après le match de Strasbourg à Rennes,
ouais.
Qui dit, bah, je vais pas non plus les féliciter, les mecs sont payés pour être bons.
Exactement. Mais Strasbourg est une sorte d'exception en Ligue 1, je l'ai déjà dit hier soir. Mais tu as raison, ça c'est des propos assez je pense innovants. Il y a 5 ans, j'étais allé à Marseille pour rencontrer à l'époque le directeur du centre de formation, c'était Henri Stambouli, peut-être un peu plus de 5 ans, je sais plus exactement. Et avec lui, il y avait Georges Prost, qui a été un grand formateur à Lyon, qui a bossé en Angleterre ensuite très longtemps, parce qu'on l'avait appelé pour ses qualités pour bosser en Angleterre. Et lui m'avait expliqué, en France, on est le seul pays où il faut expliquer et travailler sur la motivation. Le jeune joueur dans le club, hein, en fait, la motivation, il faut travailler dessus. Bon, j'étais sur le cul. Enfin, je sais pas si vous êtes pas sur le cul, enfin, motivé. Tu fais du sport de haut niveau. Voilà, c'est la base. Tu t'arrives, t'es tout le temps motivé. T'es motivé le matin, à midi, le soir. T'es motivé quand tu te couches. T'es motivé tout le temps. Enfin, c'est même pas que c'est ton métier, que c'est ça rejoint ta passion. La continuité, l'exigence, en gros, ça n'existe pas. Ce qui est la règle, en fait, dans notre foot, c'est l'irrégularité. Et ça, c'est partout dans tous les clubs. Et le truc qui semble acté, c'est que, en gros, les meilleurs joueurs. Et ça, je pense qu'ils en sont conscients. Ils veulent se faire remarquer sur le gros match parce qu'il y a des recruteurs et puis maintenant, en fait, ils envisagent immédiatement de se barrer à l'étranger parce qu'ils ont la conscience qu'ils sont surtout une valeur économique pour le club. Et puis, bon, après, t'as les autres joueurs qui, eux, s'en foutent un petit peu. Ils ont signé leur contrat. Et la conclusion, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il apparaît qu'il y a comme deux footballs en France. T'as le football des Bleus qui sont champions du monde avec un coach qu'on sait, peu importe ce qu'on pense de lui, absolument exigeant. Ça, c'est une certitude. Lui, c'est l'exigence permanente parce que il l'a appris à l'étranger, il a été formé comme ça, il a ça en lui, effectivement. Et d'ailleurs, il accorde très peu d'importance à ce qui se passe en Ligue 1. Ce qui compte pour lui, c'est les performances des mecs à l'étranger, ce qui est déjà un signe que tout le monde aurait dû capter depuis longtemps, ça. Et puis, donc, les Bleus avec ce coach-là et les joueurs, qui la plupart jouent tous à l'étranger, là où ils ont appris la très haute compétition, la concurrence, l'autorité, le travail, et après il y a l'autre football, celui qu'on vit nous au quotidien, qui est le football en gros des glandeurs, des feignasses, qui sont bons un jour mais pas toujours, celui de l'expression classique de « ouais, chez nous on travaille moins, à l'étranger on sait bien qu'on travaille plus et qu'on s'entraîne plus », c'est ce qu'ils disent tous quand ils vont. Donc à un moment, si cette mentalité-là, elle ne change pas, on pourra toujours parler de l'oseille, de la qualité de nos entraîneurs, de tout ce que vous voulez. Si on n'arrive pas à bosser là-dessus, si les mecs ne se bougent pas le cul au quotidien au lieu d'être uniquement dans la réaction, on n'ira nulle part. Parce que très nous, bien. C'est un mec qui vient, un entraîneur, il s'installe, il bosse pendant un an. Et puis après, l'année d'après, ça marche moins bien. Et puis on le vire, et puis on redémarre. Et on attend le déclic psychologique. En fait, on marche à coup de déclic psychologique. J'ai pas parlé de Nantes, mais évidemment, Nantes entre également dans la réflexion.
32-16, appelez-nous si vous voulez réagir, si vous êtes pas d'accord avec Daniel ou si vous êtes d'accord.
Oh, franchement, je vois pas comment on peut ne pas être d'accord avec ça.
Là, ça peut exister. Le 32-16 est ouvert.
Franchement, je vois pas. Non, c'est une évidence. En fait, j'enfonce les portes ouvertes et les fenêtres ouvertes.
Il y a plein de trucs à dire parce que le raisonnement que tu fais, en fait, ce côté psychologique, de l'approche des matchs, la motivation, la ceci, cela, c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur. Parce que je pense que quand t'es professionnel de football, comme n'importe quel autre professionnel d'un autre sport, c'est que t'as déjà des qualités à la base. Des qualités de vitesse, de physique, de technique, ce que tu veux, mais tu les as. Après, il y a une marche entre le bon joueur et le très bon joueur et le joueur du niveau international. Et pour moi, dans n'importe quel sport, c'est la vérité. C'est exactement ça. C'est la remise en question perpétuelle. Est-ce que t'es capable d'enchaîner les bonnes perfs? Parce que tu te remets en question, parce que c'est dans la tête n'importe quel sportif de haut niveau qui résonne comme ça.
Ouais.
Dire si tu te satisfais de deux bonnes perfs en disant bah c'est bon là putain je suis sur une bonne série, oh, puis je vais en faire moins à l'entraînement
mais
et tout ça.
Professionnel. Mais il doit y avoir quelqu'un qui doit te pousser à.
Ouais,
ça.
Mais c'est pour ça que moi j'englobe pas tout le monde dans le foot français et tous les entraîneurs par exemple français, je les mets pas tous dans la même case, même s'il y en a beaucoup, mais il y en a qui sont exigeants. Tu as cité Didier Deschamps que moi j'ai eu. Je pourrais te
Deschamps,
citer.
Deschamps, c'est un monde à part. Deschamps.
Mais ce que je veux dire, Deschamps, je vais te citer moi mon expérience. J'ai eu par exemple à Troyes Alain Perrin, d'accord. Donc ça remonte. C'était au début des années 2000. C'est un entraîneur qui est très exigeant, vraiment. Tu bosses énormément. Alors quand là dans ton truc c'est les feignasses, les ceci, les cela. Bien sûr que il y a des clubs où tu bosses moins. C'est la vérité avec des entraîneurs qui sont tranquille sur l'intensité que tu mets aux entraînements et même en dehors dans la vie de tous les jours au quotidien qui sont moins exigeants et ça se ressent et il y en a beaucoup malheureusement il y en a beaucoup mais il y a aussi il faut pas effacer les entraîneurs qui sont exigeants on se fout souvent de la tête
aujourd'hui,
de Vahid Halilhodžić
elle est dans tous les clubs.
Non mais
aujourd'hui dans tous les clubs tu notes
ce que je veux dire dans les paradoxes
c'est pourquoi t'as des clubs qui arrivent regarde ce que fait Rennes contre Lyon parce que l'entraîneur vient de se barrer. Ce qu'a fait Nantes quand Vahid est arrivé. Ce que fait Marseille l'année dernière dans l'état d'esprit. Et puis cette année, on n'arrive pas à mettre du 109. Les joueurs sont fatigués. On fait pas redémarrer la machine. Est-ce que le discours du coach s'est usé? Tu vas peut-être t'en parler tout à l'heure. En fait, à l'arrivée, moi qui suis souvent critique sur le niveau de nos joueurs et même les niveaux de l'entraîneur. Après, faut voir comment il est soutenu au-dessus. C'est ça aussi, on le dit pas, mais peut-être qu'il y a de ça aussi. Moi, je veux même pas taper sur les joueurs. Comme tu l'as dit, toi, qui as fait de la formation à très haut niveau. Moi, je crois pas Il y a des mecs, ok, qu'on forme un peu bizarrement. Il y a des gars qui ont l'air d'être des bourrins, qui savent pas taper dans la balle. Très bien, ok. Mais la plupart ont quand même une base qui est excellente.
Bah oui.
Excellente. C'est comme ce qui fait la diff avec un autre sport que t'aimes bien entre le 50e ou le 80e joueur mondial au tennis. Il sait tout faire de la même façon que le 3e ou le 4e. Ça va se jouer ailleurs. Le travail, la motivation, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire de ta vie, comment ça va se faire.
Exactement.
Mais aujourd'hui, les mecs, ils savent tous être bons s'ils veulent. Et d'ailleurs, la plupart, souvent, quand ils partent à l'étranger, ils progressent, ils franchissent des paliers.
Ouais, mais...
Pas beaucoup, quand même.
Oui, oui, ils franchissent, mais bon, ça devient...
Oui, pas. Ah, les gars veulent pas travailler. Pour moi...
Permettez-moi d'aller à
mais c'est là-dessus qu'il faut bosser. C'est pas tant quand on nous dit la limite des talents. Mais à la limite, le talent, on s'en cague du talent.
Est-ce qu'il y a pas en France un problème aussi de, général, de déresponsabilisation des joueurs?
Oui, je vais absolument. Absolument.
C'est-à-dire que l'entraîneur en France, t'as l'impression que c'est avant tout, pour qu'il réussisse, il faut que ce soit un surveillant général.
Exactement.
En mode valide.
Exactement.
Genre en mode militaire, moi je surveille tout, ce que vous bouffez, à quelle heure vous arrivez, combien de kilomètres vous courez à l'entraînement, et puis toi si tu cours pas, tu joueras pas, et puis toi si
exactement.
Tu
gagnes. Exactement.
Alors qu'à l'étranger, souvent, c'est plus basé sur la confiance. C'est-à-dire qu'en Angleterre, Wenger, il venait pas sur le terrain tous les jours pour voir ce que les mecs faisaient à l'entraînement. Et les managers, hein, l'anglais, c'est comme ça. Et les types, malgré tout, ils sont là parfois même une heure ou deux heures avant parce qu'ils font leur boulot perso, etc., etc. Donc en France, on a tendance à déresponsabiliser aussi. Ça, alors c'est un truc un peu culturel, ça, au fond.
Je pense qu'il y a de ça.
Oui, par c'est exemple, culturel. Oui, c'est culturel.
Je prends l'exemple d'Angleterre. Moi, j'étais en Écosse et j'en ai joué des matchs aussi en Angleterre et j'ai failli signer dans des clubs anglais aussi. J'ai été
visiter les installations Blackburn.
Ouais, exactement. Non, mais même dernièrement voir des séances d'entraînement, comment ça se passait. Déjà, tu peux pas comparer. Il faut pas comparer l'incomparable. Ce que je veux dire, il y a des pays, ils vivent foot, ça pue le football. Je dis, nous, c'est le sport numéro un en France. Mais c'est pas le même impact qu'en Angleterre, qu'en Espagne, qu'en Italie, par exemple, tu vois. Déjà, pour comparer avec ceux-là. Donc, déjà, t'as une forme d'exigence quand dans ton pays, le football est un peu plus respecté et mis en avant et que c'est ça fait partie de la politique du pays, quoi. Hein? Donc, l'approche, elle est différente dans les clubs et tout ça. Et t'es pas obligé, comme je te dis, t'es pas obligé d'avoir cette exigence-là à tout surveiller. Heureusement que tous les entraîneurs sont pas comme ça. Et même les joueurs ils se prennent en main. Mais après il faut savoir quand tu te prends en main, savoir ce que toi t'es capable d'apporter. Alors on te donne des bases, on peut te faire le flic de temps en temps, mais après c'est toi, c'est en toi la remise en question que t'as, l'hygiène que tu vas avoir, les efforts que tu vas faire aux entraînements pour progresser à n'importe quel âge. Mais ça c'est dès le plus jeune âge que tu travailles ça. Et je pense que sur la plupart, il y en a beaucoup, on leur déplie le tapis rouge dès leur plus jeune âge et ils arrivent au niveau pro avec des bases assez solides parce que n'importe quel professionnel de n'importe quel sport, encore une fois je me répète, a une valeur et a des qualités bien supérieures à la moyenne, sinon ils seraient jamais des joueurs professionnels. Mais après ce côté psychologique, il y a un cap à passer, c'est soit tu l'as ou tu l'as pas. Si t'as été bien formé, bien conseillé, émis, et ben peut-être que t'arrives à te mettre dans le dur au plus vite et te remettre en question au
mais
quotidien.
Il faut quelque chose dans le club au quotidien pour entretenir la flamme de bosser, de jouer pour le club, de t'inscrire dans une aventure commune, qu'elle dure un an, deux ans, trois ans, en fonction du temps que tu vas rester dans le club.
Allez, ouais, gars, je vais te donner juste.
Il faut que quelque chose s'écrive.
Je vais te donner juste un exemple. Là,
j'ai connu le PSG.
Où
souvent on a reproché à un moment, même si ça arrive un peu plus aujourd'hui, mais les jeunes ont du mal à gravir les échelons au Paris Saint-Germain. Je les ai vus, les jeunes arriver au PSG. Au PSG, les jeunes, par exemple, pour parler des jeunes au PSG, ils sont dans le confort. Ah. Ils arrivent aux entraînements. Au niveau pro, alors dans ma génération et même aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est pas forcément bénéfique pour eux. Et tu sens qu'il y a des mecs qui arrivent pas à passer le cap parce que le Paris Saint-Germain c'est un grand club et c'est compliqué d'y jouer au niveau pro. Et après ils sont prêtés. Et quand ils partent, parce que je l'ai vécu ça aussi, j'en ai vu arriver, que ça soit à Bastia par exemple, où beaucoup d'un moment ça a été, on vous prête un joueur, ils arrivent, c'est les petites starlettes. Ils en font moins et même à Bastia, ils arrivent pas à s'en sortir parce que il y a pas de remise en question, parce qu'il y a pas de travail au quotidien, parce qu'ils se sentent bien au-dessus des joueurs Bastia à l'époque. Pour parler de Bastia, je pourrais parler des autres. Et à l'arrivée, ils plongent et ça devient des joueurs que tu prêtes à tire-larigot sur tous les matchs de Ligue 1. Et après, quand ils ont fait le tour des clubs de Ligue 1, ils partent dans des petits championnats à l'étranger. Et ben voilà, ça part de là. Et aujourd'hui, en France, malheureusement, il y a des clubs, ils peuvent pas lutter contre ça. Donc, t'as des variations de résultats et de qualité de joueurs.
Moi, je parle même à...
Daniel, s'il te plaît. En 32-16 maintenant, Abdelkader est avec nous. Bonsoir.
Oui, bon, salut Gilbert, salut à tous.
Salut, on t'écoute.
Oui, déjà, je voulais saluer Jérôme Rothen en tant que supporter parisien. Salut. Je voulais saluer pour les années que tu as fait au PSG. Bon, tu as été souvent blessé, mais on aurait voulu que tu sois comme à Monaco.
Ouais, ouais. Ben moi aussi, j'aurais aimé avoir une équipe aussi forte.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, je voulais revenir sur l'avis de Daniel Riolo. Alors, j'étais d'accord avec lui, mais jusqu'au moment où il a dit qu'il ne voulait pas trop taper sur les joueurs. Moi, personnellement, je taperais plus sur les joueurs que sur les entraîneurs.
Non, c'était pas dans ce sens-là, Abdelkader, que j'ai tapé sur les joueurs, sur comment ils sont à la base. À la base, comme disait Jérôme, c'est tous des mecs qui ont un potentiel, puisque tu sais que c'était le grand mot à la mode qu'on a utilisé pendant des années. Oui, ils l'ont. Ils ont tous les qualités, a priori, pour faire de belles carrières. C'est comment ce potentiel n'est pas mis en avant et n'est pas exploité. Ouais. Et là, tu as raison. Ça peut dépendre, comme disait Gilbert Soy, de la responsabilité de eux, de ce qu'ils veulent faire de leur vie, de la responsabilité aussi de ce qu'on leur demande.
Abdelkader, vas-y, on t'écoute.
C'est ça, pour moi, on peut par exemple leur mettre un cadre parfait, mais si eux n'ont pas la motivation et eux n'ont pas la volonté de se transcender pour atteindre le haut niveau, on ne pourra jamais rien faire. Moi, j'ai l'impression que par exemple, on a ce mythe de la génération 87, par exemple. Je prends l'exemple d'Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa, c'est un mec, au balle au pied, il est exceptionnel. C'est un mec, quand il veut jouer, j'en parlais encore hier avec quelqu'un, quand il veut jouer, c'est un mec exceptionnel. Mais on lui a jamais dit que le football se jouait à 11. C'est un mec que, depuis qu'il était petit, il prenait le ballon, il jouait tout seul, il allait marquer. Et il n'y a aucun encadrant qui lui disait, bon, écoute, petit, ça, c'est comme ça, va falloir se remettre en question, etc., etc. Donc, comme je disais, juste avant, et tu l'as souvent dit, Daniel, ce qui fait la différence entre un Ginsky et un Nadal, par exemple, c'est la motivation de jouer dans les hauts niveaux. Je pense que tu l'as dit plusieurs fois,
Mais évidemment, tu as raison.
Et justement, je trouve qu'aujourd'hui...
A priori, il n'y a rien qui les différencie au niveau talent.
Bah moi, honnêtement, je ne connais pas trop le tennis. Je regarde de temps en temps, mais j'ai l'impression que Gasquet, ce n'est pas une pipe. Quoi.
Vous parlez
Différence.
On se pose et on reprend le débat.
Vous parlez d'un joueur qui est quand même a été souvent dans les 10 meilleurs. Hein.
Oui,
c'est pas n'importe qui.
Et pas Gasquet.
Non, mais...
Gasquet, c'est...
Non, mais qu'il ait pas gagné de grand chelem, c'est une chose. Déjà, il en a fait des demi-finales, il a fait des bonnes. Non, mais excuse-moi. Si en joueur de tennis, tu mets Richard Gasquet, il n'y a que ça pour dire, oh, le mec, il a rien gagné. Oh, Richard, il a fait une carrière incroyable.
Non, Jérôme, il est néanmoins l'incarnation d'une mentalité française.
À tout de suite. Ouais. Pour continuer le débat.
Oui, mais je peux comprendre.
Il est dans le gâchis.
Non, mais je peux comprendre.
C'est son choix. Donc, c'est un choix.
Au niveau du boulot.
Le tennis et le foot, c'est pas pareil.